Vous écoutez, on lit pour vous.
La chaleur nous rend-elle plus ou moins patients? Un texte d'Ariane Chevrier, paru le 14 août 2025 dans Le Devoir. Les bonheurs de l'été sont multiples. On est en vacances, on voit ses amis et on profite. L'effervescence estivale peut toutefois mettre rudement à l'épreuve notre patience avec l'augmentation de l'achalandage dans les attractions touristiques. Les températures agréables et la chaleur peuvent-elles nous aider à patienter? Si plusieurs études montrent un lien entre un mercure et l'irritabilité, le contexte et la durée de l'exposition sont également des facteurs importants à considérer. Dès qu'une vague de chaleur est annoncée, on adopte généralement certains comportements préventifs pour conserver son confort, explique Stéphane Perron, médecin environnemental à l'Institut national de la santé publique du Québec, INSPQ. Cela peut être d'allumer la climatisation ou un ventilateur avant qu'il fasse trop chaud. La première réponse à la chaleur est donc surtout comportementale, affirme-t-il. Le geste crée une distraction dans le cerveau qui alloue donc une partie de son énergie à conserver un équilibre thermique. Ensuite, si la température est toujours inconfortable, le corps peut se rafraîchir entre autres grâce à la production de sueur et à l'accélération du rythme. Ces réactions sont énergivores pour le corps et peuvent alors provoquer de la fatigue et donc de l'irritabilité en ajoutant une charge supplémentaire sur le cerveau qui tente de fonctionner sous un stress thermique, selon un article paru en 2024 dans la revue American Association. Les épisodes de chaleur causent même une diminution des capacités intellectuelles, dont une augmentation du temps de réaction, ainsi qu'une diminution de la mémoire ou de l'attention, ont montré des études. Des chercheurs américains que des étudiants dormant dans des bâtiments non climatisés réussissaient moins bien des tests cognitifs que ceux qui vivaient dans un milieu climatisé pendant une vague de chaleur. L'augmentation de la température corporelle et la déshydratation pourraient être à l'origine de ce phénomène. Il est toutefois important de noter que cette diminution des fonctions cognitives est observée aux alentours de la zone de confort et que celle-ci peut varier d'une personne à l'autre, explique le docteur Perron. Si vous êtes à l'aise à 22 ou 24 degrés ou à 25, votre performance cognitive va diminuer rapidement. À 30, vous n'observerez pas plus vraiment de diminution, et ce, même jusqu'à 40 ou 45 degrés. En plus de créer de l'inconfort et un certain niveau de fatigue, un épisode de chaleur peut nuire à la qualité du sommeil. Puisque le corps diminue légèrement sa température pour l'endormissement, une canicule rend le sommeil plus difficile, en plus de réduire la quantité de sommeil profond. Un locataire au quatrième étage qui n'a pas accès à la climatisation, qui ne dort pas bien depuis quelques jours, va constater un effet sur sa patience, affirme Stéphane Perron. C'est important. Et si, au contraire, on recherche cette chaleur pendant nos vacances, l'effet est-il le même? Le contexte est très important, répond le docteur. Si vous vous attendez à ce qu'il fasse chaud parce que vous partez en voyage dans un pays tropical, c'est plaisant. Si vous citez que votre air climatisé ne fonctionne plus, ce n'est pas la même chose. L'impatience est pourtant souvent associée à l'hiver. Le pelletage, le manque de lumière, les effets des vagues de froid sur les fonctions cognitives sont cependant comparables à ceux de la chaleur, affirme le médecin. L'épuisement général associé aux hautes températures. Le contexte estival où la chaleur est attendue et parfois désirée pourrait donc atténuer l'irritabilité. Si une chaleur non désirée est parfois un problème, elle agit rarement seule. Les facteurs influant sur la patience sont multiples et complexes. Une température inconfortable explique rarement à elle seule des problèmes d'irritabilité. Toutefois, une personne vivant avec un problème de santé mentale pourrait voir une aggravation de sa maladie lorsqu'elle est exposée à des températures inconfortables. Il note d'ailleurs une augmentation des problèmes psychosociaux et de santé mentale lors des vagues de chaleur. Des mesures d'adaptation. Pour se protéger de la chaleur et conserver sa bonne humeur, les recommandations restent donc les mêmes. Rester à l'ombre, et se rafraîchir dans un endroit frais quelques heures par jour. Maintenir une bonne condition physique peut également diminuer sa vulnérabilité à la chaleur, selon l'INSPQ. L'organisme recommande également d'adapter son logement aux épisodes de chaleur, des ventilateurs, des toiles et des rideaux, de la climatisation ou même de la végétation à l'extérieur procurant de l'ombre au bâtiment. Pour assurer un confort thermique, la température d'un logement devrait se situer entre 22 et 26 degrés, et avoir une humidité relative entre 30 et 50. Avec les changements climatiques, le Québec devrait voir son nombre de journées très chaudes augmenter de façon majeure. Stéphane Perron souligne l'importance d'adapter nos habitations pour rester au frais, par exemple au moyen de toits blancs ou verts, d'une bonne aération ainsi que d'une climatisation. La réduction des surfaces asphaltées et l'augmentation des espaces verts pourraient également contribuer à la réduction des îlots de chaleur dans les villes. C'était « La chaleur nous rend-elle plus ou moins patients ?» un texte d'Ariane Chevrier, paru le 14 août 2025.
La rentrée littéraire 2024, littérature québécoise, théâtre. Des propositions de lecture de Philippe Fortin, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. Il se joue beaucoup de théâtre au Québec, comparativement au peu de textes dramaturgiques ayant le privilège de faire l'objet d'une publication. Toutefois, grâce à l'apport grandissant de maisons d'édition telles qu'Atelier 10 et Tamer, qui s'ajoutent à l'arrière-garde, cette situation semble heureusement vouée à se résorber. Dans tous les cas, on ne saurait trop vous enjoindre d'aller voir les pièces qui passent près de chez vous. Rebecca de Raspe, dramaturge cumulant plus de 10 ans de carrière et presque autant de pièces, publie « Fanny » chez Tamer, une pièce créée en 2021. Fanny et Dorian forment un vieux couple qui habite une grande maison et qui n'a pas à se plaindre. Pour déjouer la routine et la stabilité presque ennuyante de leur vie, ils décident de louer une chambre à une étudiante, Alice. Au contact de celle-ci, leurs valeurs et leurs certitudes se voient remises en question. Le choc est grand pour Fanny, qui, dès lors, essaie de comprendre cette jeunesse qui l'impressionne et la ravit. Guillaume Chapnick offre une exploration émouvante des relations masculines dans le cadre familial avec Shevchenko chez Atelier 10, qui met en scène une famille québécoise d'origine ukrainienne où 3 frères se dévouent à leur père atteint d'une maladie neurodégénérative. Tandis que l'autonomie du père décline et que ses repères s'estompent, les souvenirs des instants de beauté et de liberté reviennent et se déploient. Un texte prenant sur l'approche aidance et la résilience des immigrants de 2e et 3e génération. François Archambault et Gabrielle Chapdelaine dénoncent la toxicité d'un certain optimisme de pacotille avec « Faire le bien » chez Leméac, une pièce détaillant la lutte épuisante et souvent désopilante de ceux qui cherchent à bien faire à une époque où la bienveillance est devenue un impératif. Naviguant entre le drôle, l'âpre et le touchant, les scénettes soulignent les angles morts de nos interactions, là où la question cruciale du vivre ensemble se pose, aussi omniprésente qu'insoluble. C'était la rentrée littéraire 2024, littérature québécoise, théâtre. Des propositions de lecture de Philippe Fortin, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.
Polyhandicap. Qu'est-ce qu'une personne polyhandicapée? Un texte de Diane Lapointe paru le 31 mars 2025 dans Andy Nova. Le polyhandicap se caractérise par une association de déficiences graves, engendrant une restriction majeure de l'autonomie. Il combine une atteinte motrice et une déficience intellectuelle sévère, affectant la perception, l'expression et l'interaction avec l'environnement. Comment le définir précisément? Quelles sont ses causes, ses conséquences et les solutions pour accompagner les polyhandicapés? Définition du polyhandicap en quelques mots. Le polyhandicap est une association de déficiences multiples. Il se caractérise par une déficience motrice et une déficience mentale sévère. Ces déficiences sont souvent causées par un dysfonctionnement cérébral précoce ou survenu au cours du développement. Les personnes polyhandicapées ont une autonomie très limitée et nécessitent une assistance constante. Ce dysfonctionnement cérébral entraîne des perturbations graves et multiples. Elles affectent l'efficience motrice, perceptive, cognitive, et la construction des relations avec l'environnement physique et humain. Les personnes polyhandicapées sont dans une situation d'extrême vulnérabilité physique, psychique et sociale. Elles peuvent présenter des signes de la série autistique de manière transitoire ou durable. Le polyhandicap se distingue du plurihandicap, qui est une association circonstancielle de plusieurs handicaps avec conservation des facultés intellectuelles, et du surhandicap, qui est une surcharge de troubles du comportement sur un handicap grave préexistant ou une autre atteinte sensorielle ou viscérale. Quelles sont les causes du polyhandicap? Le polyhandicap peut être causé par divers facteurs qui peuvent survenir avant, pendant ou après la naissance. Voici un aperçu des principales causes. Cause prénatale. Malformation. Des anomalies dans le développement du fœtus. Infection. Certaines infections contractées par la mère affectent le bébé. Accidents vasculaires cérébraux. Des problèmes de circulation sanguine dans le cerveau du fœtus. Cause périnatale. Souffrance fœtale. Un manque d'oxygène ou des complications lors de l'accouchement. Grande prématurité. Une naissance très précoce entraîne parfois des complications. Cause postnatale. Traumatisme. Des blessures graves à la tête après la naissance. Arrêt cardiaque, un arrêt du cœur qui prive le cerveau d'oxygène. Causes inconnues. Parfois, les médecins ne trouvent pas d'explication précise. Les recherches continuent pour mieux comprendre ces cas. Facteurs génétiques. Des anomalies dans les gènes peuvent aussi être à l'origine du polyhandicap. Les scientifiques travaillent sans cesse à identifier ces causes génétiques. Chaque cas de polyhandicap est unique et comprendre les causes permet de mieux accompagner les personnes polyhandicapées. Vie quotidienne d'un polyhandicapé. Les personnes polyhandicapées font face à de nombreuses difficultés. Elles ont besoin d'une assistance constante pour les activités quotidiennes. Voici un aperçu de leur quotidien. Assistance continue. Elles ont besoin d'aide pour des tâches comme s'habiller, se laver et manger. Une présence constante est souvent nécessaire pour assurer leur sécurité et leur bien-être. Communication non verbale. Leur capacité à communiquer est souvent limitée. Elles utilisent des gestes, des sons ou des outils de communication augmentés, comme des pictogrammes, pour exprimer leurs besoins et leurs émotions. Mobilité réduite. Elles peuvent avoir des déformations des membres ou du rachis nécessitant l'usage d'attelles et de coquilles pour maintenir leur posture. Un fauteuil roulant ou un respirateur fait souvent partie de leur quotidien. Soins médicaux. Les personnes polyhandicapées sont souvent sujettes à l'épilepsie et contractent plus fréquemment des maladies infantiles. Elles peuvent également avoir des difficultés à déglutir, nécessitant parfois des protections pour incontinence. Accompagnement spécialisé. Leur entourage joue un rôle important dans leur accompagnement. Les proches et les professionnels de santé adaptent les soins et les activités pour répondre à leurs besoins particuliers de façon à améliorer leur qualité de vie. Accompagnement et soutien des personnes polyhandicapées. L'accompagnement des personnes polyhandicapées est indispensable. Cela passe notamment par un soutien médico-social attentif qui vise à améliorer leur qualité de vie et à favoriser leur inclusion sociale. Voici quelques types d'accompagnement. L'éducation thérapeutique met l'accent sur l'établissement d'une communication. Elle utilise le langage parlé et des codes de communication spéciaux. Elle fait appel aux symboles ou au toucher. Des méthodes éducatives adaptées sont également testées. La méthode Padovan, par exemple, utilise la stimulation neurosensorielle. La méthode Doman est une méthode d'hyperstimulation. L'éducation conductive apporte des bénéfices réels aux polyhandicapés. Elle accompagne l'intention de l'enfant et utilise une approche globale. Objectifs et moyens. La scolarisation des enfants polyhandicapés nécessite des moyens humains, des locaux et des outils pédagogiques adaptés. Le volet polyhandicap de la Stratégie nationale d'évolution de l'offre médico-sociale fixe comme objectif de favoriser la scolarisation des enfants polyhandicapés. Des cahiers des charges nationaux sont élaborés pour la mise en place d'unités scolaires adaptées. Participation à la vie sociale. L'inclusion des personnes polyhandicapées dans la société est encouragée à travers diverses initiatives. Des actions sont mises en place pour faciliter leur accès à la culture, aux loisirs et aux interactions sociales. Ces mesures contribuent à améliorer leur quotidien et offrent un réel soutien aux proches aidants. Finalement, la scolarisation des enfants polyhandicapés est un réel enjeu pour leur inclusion sociale. C'était Polyhandicap, qu'est-ce qu'une personne polyhandicapée? Un texte de Diane Lapointe, paru le 31 mars 2025 dans Andinova.
La rentrée littéraire 2024, littérature jeunesse, ajuster la douceur du regard. Des propositions de lecture de Vicky Sans Façon, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. À l'époque où une multitude de retouches numériques filtre la diversité si précieuse des corps au profit d'une uniformité dommageable, l'impératif de développer une image corporelle positive dès le plus jeune âge n'aura jamais été plus critique. Pour l'autrice Vashti Harrison, c'est d'abord par les mots que l'on choisit d'apposer sur soi et sur les autres que l'on peut faire toute la différence. Dans son album intitulé « Grande » chez Scholastic, elle raconte le quotidien d'une fillette que l'on a toujours qualifiée de plus grande que son âge. Effectivement, tout était plus grand chez elle. Sa taille, son cœur, son rire, ses rêves. Être grande était sa force jusqu'au jour où, incapable de s'extraire de la balançoire, elle voit cet adjectif adoré se trouver sali par le regard d'autrui. Se sentant prisonnière de ce corps gonflé par la honte, elle fera un choix déterminant, celui de redonner la lourdeur gênante de ce mot à leur propriétaire et de s'aimer telle qu'elle est. Cette même leçon d'acceptation est inculquée dans le magnifique album « Un visage est un poème » de Julie Morstad chez La Pastèque. L'autrice invite ici son lecteur à une contemplation poétique de son propre visage pour en admirer tous les éléments, des yeux à la bouche, en passant par les rides et autres marques du temps qui le rendent unique. Embrassant d'un regard tendre ce qui nous distingue et surtout ce qui nous lie comme êtres humains, cet album est une ode au corps allié et à tous ces morceaux parfaitement imparfaits qui nous composent. C'était la rentrée littéraire 2024, littérature jeunesse, ajuster la douceur du regard. Des propositions de lecture de Vicky Sans Façon, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.
Les parcs nationaux changent de visage. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 21 mai 2025 dans Le Devoir. Les parcs nationaux canadiens changent de visage en raison des changements climatiques qui bouleversent la faune et la flore de ces immenses espaces verts, entraînant notamment la multiplication des feux de forêt et des espèces invasives. Les experts sont toutefois divisés sur les interventions humaines nécessaires ou non pour limiter les répercussions des bouleversements en cours dans ces sites emblématiques. Des impressionnants glaciers et monts enneigés du parc national Kluane au Yukon, en passant par les falaises du parc national de Forillon en Gaspésie, et les randonnées à couper le souffle que propose le CIF de Banff, en Alberta, les parcs nationaux du pays sont visités chaque année par des dizaines de millions de visiteurs locaux et de touristes provenant des quatre coins du monde. Ces paysages idylliques, en apparence paisibles, font toutefois face à d'importantes transformations dans le contexte des changements climatiques. Le glacier Athabasca, dans le parc national Jasper, recule aujourd'hui d'environ 5 mètres par année et pourrait avoir complètement disparu en 2100, tandis que la plage du parc Forillon est menacée par la montée des eaux, indique Parc Canada sur son site Web. La saison des feux de forêt, déjà bien amorcée cette année dans l'Ouest canadien, brûle pour sa part des territoires de plus en plus vastes au pays, tandis que des insectes exotiques et des plantes envahissantes menacent le maintien de couverts forestiers, le poumon vert des parcs nationaux. Ce à quoi s'ajoute la surabondance de certains herbivores, comme le castor et le cerf, qui bouleversent également un écosystème naturel déjà fragilisé par des inondations et des sécheresses plus fréquentes. Ainsi, les parcs nationaux changent de visage, relève en entrevue Sylvain Delagrange, professeur en écologie fonctionnelle et écophysiologie végétale à l'Université du Québec en Outaouais, UQO. Beaucoup d'entre nous auront l'impression que les changements climatiques auront changé l'identité de nos parcs nationaux, note lui aussi Kai Chan, professeur à l'Institut des ressources de l'environnement et du développement durable de l'Université de la Colombie-Britannique. Et c'est normal que les gens soient alarmés par ça. Aider les parcs à s'adapter. Dans ce contexte, Christian Messier, professeur en aménagement forestier et biodiversité à l'UQO, se demande s'il ne faudrait pas intervenir dans nos parcs nationaux, dans nos aires protégées, pour augmenter la résilience de ces forêts-là. En entrevue, il indique que le climat et les migrations de nombreuses espèces animales du sud vers le nord surviennent à un rythme bien plus élevé que celui de l'adaptation de la forêt existante dans nos parcs nationaux à ces changements. Il appréhende ainsi un déclin important de la biodiversité de nos parcs nationaux. Les espèces d'arbres de nos forêts sont mal adaptées à ces nouvelles conditions climatiques et peuvent être affectés par des insectes ou des maladies, poursuit M. Messier, qui plaide pour la plantation dans nos parcs nationaux d'espèces d'arbres provenant de secteurs plus au sud, où la végétation est plus résistante à cette déréglementation de notre climat. L'érable à sucre du Minnesota, plus adapté aux sécheresses, pourrait par exemple être introduit au Québec, explique-t-il. On fait face à des stress qui sont hors du commun, et on a peur que nos écosystèmes ne soient pas toujours en mesure de résister ou de s'adapter à ces nouvelles conditions-là, relève l'expert. Donc, est-ce que c'est toujours sage, aujourd'hui en 2024, de dire que le seul fait d'avoir des aires protégées et de ne pas intervenir, ça va protéger nos parcs à court terme? Demande M. Messier. J'ai l'impression qu'on a une obligation d'intervenir, répond Kai Chan, selon qui il y a beaucoup de cas où la migration assistée d'espèces d'arbres a beaucoup de sens, afin d'aider les écosystèmes de nos parcs nationaux à s'adapter au changement climatique. Ce n'est pas une bonne idée. Cette position favorable à une intervention humaine dans nos forêts ne fait toutefois pas l'unanimité, bien au contraire. Ce n'est pas une bonne idée, tranche sans détour le professeur Sylvain Delagrange. Il y a certaines interventions qui pourraient être intéressantes si elles sont très réfléchies et localisées, mais dans la grande majorité des cas, je ne vois pas de bonne raison d'intervenir dans ces territoires-là, ajoute-t-il, en référence aux parcs nationaux et aux aires protégées. En effet, en intervenant dans ces espaces verts, on prend le risque de nuire à l'adaptation de nos forêts aux effets des changements climatiques, relève-t-il. Il n'y a rien qui dit que la nature va faire moins bien que ce qu'on fait, nous, soulève le professeur. Il relève par ailleurs le risque que des interventions humaines dans des parcs nationaux pour y planter des espèces d'arbres d'une autre provenance y accélèrent par exemple l'introduction d'insectes ou des maladies, contribuant au déclin du couvert forestier. Si on intervient partout avec une méthode d'intervention et qu'on se rend compte que c'est la mauvaise, je trouve que c'est un danger, souligne celui qui préfère être optimiste quant à la capacité de nos forêts à s'adapter au changement climatique. La nature va installer des choses qui vont être durables et qui vont fonctionner, pense-t-il. Pour moi, c'est un peu une occasion de voir comment la nature va s'adapter à ça, ce qui va s'installer là. Ce que ça va devenir, ajoute l'expert. Des refuges. Sylvain Delagrange ne s'oppose pas cependant aux mesures de restauration que prennent parfois Parc Canada et la Société des établissements de plein air du Québec, CEPAC. Ce sont par exemple quelques centaines de rainettes faux-grillons qui ont été relâchées dans les dernières années dans des étangs conçus sur mesure pour répondre à leurs besoins dans le Parc national du Mont-Saint-Bruno, où cette espèce en voie de disparition n'était plus présente depuis des années. La CEPAC a par ailleurs procédé à la plantation de quelques milliers d'arbres au Parc national de Plaisance, en Outaouais, après que le nerprun cathartique, une plante associée à la mortalité des frênes, y ait fait des ravages. Kai Chan estime d'autre part que les changements climatiques ont montré le rôle crucial que jouent les parcs nationaux comme refuge pour les nombreuses espèces animales et végétales qui migrent vers d'autres territoires afin de s'adapter à ces bouleversements. L'expert plaide ainsi pour la création d'un plus grand nombre d'aires protégées au pays, pour aider la biodiversité à s'adapter à la crise climatique. Pour certaines espèces, ce sont les derniers refuges qui leur restent. C'était « Les parcs nationaux changent de visage », un texte de Zachary Goudreau, paru le 21 mai 2025 dans Le Devoir.